Esprit des lieux. Une émission de Toufik Hakem.
On a deux cerveaux. Vous avez la production artistique, la recherche scientifique. Donc on est un atelier de scientifiques et on est un laboratoire d'artistes. Et comment ces deux cultures vont se rencontrer et vont rêver ensemble? Et c'est exactement ici que ça se passe, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui font du code, ceux qui font de l'informatique, rencontrent ceux qui font des sons et qui rêvent. Et c'est ça l'idée de la fabrique des rêves sonores qui se passe ici.
Des lieux où les artistes rencontrent, travaillent, partagent leur univers avec des scientifiques, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. En France, il n'y en a qu'un seul, l'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, créé et longtemps dirigé par le musicien Pierre Boulez au tout début des années 1970. C'est là où je vous emmène ce soir, car après 7 ans de travaux de désamiantage puis de rénovation, l'IRCAM ouvre au public ses espaces enfouis sous terre.
L'IRCAM, le laboratoire des rêves sonores.
Bonsoir à toutes et à tous. À l'origine, l'IRCAM a été construit en sous-sol par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, auteurs du centre Pompidou voisin. D'ailleurs, à l'ombre de son grand frère, l'IRCAM a eu du mal à se faire remarquer au début. Les plus anciens se souviennent peut-être qu'à l'époque, que beaucoup de gens confondaient l'entrée de l'Institut avec la bouche du métro Rambuteau. L'IRCAM s'est depuis agrandi, avec notamment une petite tour, pour apparaître enfin dans le paysage urbain. Et surtout, l'IRCAM a totalement pris son indépendance avec le Centre Beaubourg pour devenir un haut lieu mondial de la recherche appliquée au son et à la musique. Place Igor Stravinsky. La fontaine Niki de Saint-Phal est en travaux et du coup, on voit mieux l'IRCAM. Son directeur, Franck Madlener, m'attend à l'entrée de l'Institut. La visite commence. L'IRCAM version 2023, état et esprit des lieux.
Alors nous sommes sur la place Stravinsky, entre le centre Pompidou et l'IRCAM et la fontaine Stravinsky. Vous avez une tour en briques qui a été donc construite par Renzo Piano. Et vous avez en face de nous une sorte de petit pont vénitien qui enjambe la verrière. Et à gauche, une école dont il ne reste que la façade, dans laquelle l'IRCAM enseigne la musique et l'électronique. Et en dessous, sous la verrière, se trouve ce laboratoire, ce lieu assez mystérieux qui descend jusqu'à 16 mètres sous la place Stravinsky. En tout cas, c'est un pont qui donne l'accès à l'entrée principale de l'IRCAM et on peut voir à peu près dans les reflets qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous, en sous-sol.
On y va ?
Je vous suis. On est rentré et on a face à nous un puits de lumière. On voit d'ailleurs des jeunes personnes, ce sont des étudiants qui seront face à des ordinateurs, qui vont travailler. Il y a des cours qui sont faits là. Un peu plus haut, dans ce puits de lumière, il y a une médiathèque et on voit le ciel tout là-haut. On pourrait dire que la surface la plus grande de l'IRCAM, elle est invisible. C'est comme l'iceberg, elle est sous terre.
Et ces couleurs, c'est-à-dire couleur brique à l'extérieur, couleur jaune à l'intérieur, ça c'est depuis le début ?
Absolument, et ça fait partie de la signature du bâtiment. Voilà. Et d'ailleurs, on peut, en avançant un peu donc vers la borne d'accueil, on va voir une superbe maquette, la maquette du bâtiment, où on voit en fait comment les choses se sont réparties, et on voit les studios, et on voit l'espace le plus considérable de l'IRCAM, qui est l'espace de projection. Voilà. C'est un plan de coupe où se trouve d'ailleurs la fontaine Stravinsky, dont on attend la restauration. Donc c'est un lieu d'escalier. Donc vous allez voir ce que vous expliquez sur la chenille qui devient un escalier, eh bien on y est, c'est-à-dire qu'on descend dans les sous-sols. Et donc dans cette maison, il y a plus d'une centaine de personnes qui travaillent, avec une passion commune qui est la musique. La musique et le son. D'ailleurs c'est difficile de faire une musique sans son, mais il y a effectivement la dimension du son, c'est-à-dire qu'on peut avoir des designers sonores, on travaille beaucoup la relation entre le son et le bien-être entre le son et la clinique. Et on travaille beaucoup avec des musiciens et des compositeurs. D'ailleurs, vous voyez le nom des salles, ce sont des noms de compositeurs. Il y a la salle Nono, la salle Stravinsky, la salle Varèse. Et si on descend plus bas, c'est-à-dire au moins 2, on va se retrouver sous la grande verrière. Avec une caractéristique toujours de la couleur jaune, donc ça c'est l'ascenseur qui permet de descendre sans les escaliers, et puis une nouvelle couleur très frappante, c'est le orange mécanique des années 70, qui recouvre l'entièreté du sol, vous voyez d'ailleurs même le type...
Et du mobilier.
Et du mobilier absolument, et là vous avez le bienvenu à l'IRCA, donc vous êtes sous cette verrière, et là vous allez, je pense, bien comprendre ce rapport entre cette chenille qu'on voit, par la transparence, et cet escalier qui descend vers la salle la plus grande qu'on appelle l'espace de projection. Alors, ce qui est frappant sous cette verrière, c'est qu'il y a une galerie, une balustrade, des escaliers en colimaçon. Donc, c'est assez étrange, un côté rétro-futuriste. Et puis, vous avez une division, si vous voulez, qui explique ce qu'est l'IRCAM. On a deux cerveaux. Vous avez la production artistique, la recherche scientifique. Donc, on est un atelier de scientifiques, et on est un laboratoire d'artistes. Et comment ces deux cultures vont se rencontrer et vont rêver ensemble? Et c'est exactement ici que ça se passe, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui font du code, ceux qui font de l'informatique, rencontrent ceux qui font des sons et qui rêvent. Alors, on va peut-être prendre le deuxième couloir, parce que tout est une affaire de couloir. Il y a d'ailleurs un souterrain qui relie l'IRCAM au centre Pompidou, qui n'est pas public. C'est
secret, donc.
C'est secret, ça passe sous la place et ça aboutit au cœur du centre Pompidou. C'est pour le service, c'est pour la manutention, et donc on peut transporter des choses par ce souterrain-là. Et là, vous voyez qu'il y a des studios. Et donc, dans chaque studio...
Là, c'est le studio 5.
C'est le studio 5, alors on peut ouvrir le studio 5, si j'ai le passe. Attendez. Voilà. Je vous entraîne ici. Vous voyez quoi dans ce studio? Vous voyez l'état dans lequel des artistes l'ont laissé. Donc il y a un piano Yamaha qui est ouvert, il y a des percussions. On s'amuse beaucoup à relier des instruments entre eux, avec des transducteurs, des vibrateurs, etc. Et ici même, il y avait un compositeur qui maintenant est passé dans un autre studio, qui prépare sa création mondiale dans quelques jours. Voilà.
Et ce bacao, c'est une fuite ou ça sert à autre chose?
Alors c'est un instrument, vous savez que dans les percussions vous avez des bâtons de pluie, et bien là c'est une sorte de percussion homemade qui a été fabriquée artisanalement et qui se fait ici. D'ailleurs d'une façon générale, ce qu'on remarque c'est qu'il y a un mélange de haute technologie et d'artisanat. Et par exemple, nous venons de faire un clonage vocal où on a reconstitué la voix de l'appel du 18 juin, la voix du général de Gaulle, et bien c'est exactement ça, c'est un mélange de technologie, d'intelligence artificielle et d'artisanat. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer, refaire et retrouver les sons de l'époque et rendre une archive vivante. Alors, je vais vous guider dans un lieu qu'on montre très rarement, sauf lors de portes ouvertes. C'est la chambre anéchoïque. C'est un piège à sons. C'est un lieu où tous les sons sont absorbés. Et où donc on entend des choses qu'on n'entend pas naturellement. Vous allez entendre votre propre circulation sanguine, les propres sons internes dans ce lieu. Et c'est un lieu dans lequel on peut mesurer le rayonnement des instruments, mesurer la qualité des haut-parleurs, etc. Donc ça s'appelle la chambre anéchoïque. Pour ça, il faut que je puisse l'allumer. Il faut faire attention où on marche. Voilà. Et là, vous pouvez entrer. Et vous voyez que c'est cette mousse qui absorbe tous les sons. Vous voyez qu'il y a des cônes qui font qu'il n'y a aucun reflet venant de la salle. On n'entend que votre source, on n'entend que votre voix. On n'entend pas le reflet qui viendrait du plafond, du sol, comme dans tout lieu normal. Donc on peut mesurer exactement les sources sonores. Si vous y restez très longtemps, ça peut devenir angoissant. C'est un caisson de silence. Donc vous voyez, des cordes, c'est pas un lieu de torture, c'est vraiment pour mesurer le rayonnement d'instruments, de haut-parleurs, et de prendre des mesures scientifiques de ça. Ce sont des capteurs et il y a des micros aussi pour simplement mesurer ce qui sort des sources sonores. Voilà. Puisqu'on va reprendre les escaliers, ça nous manquait. Donc, vous voyez, on est de nouveau dans un couloir orange. Là, il y a l'équipe des ingé-sons, parce que qui dit musique dit ingé-sons, les équipes de production. Donc, vous avez différents studios. On a vu le studio 5, studio 4, 3, 2, 1. Je vais peut-être vous montrer dans le studio 1 quelque chose qui ne peut pas se voir ni s'entendre, c'est un système de dôme ambisonique. C'est une sorte d'igloo sonore dans lequel vous êtes totalement immergé par le son. On peut aller voir en studio 1, comme ça on pourra déranger d'autres personnes. Et c'est là-dedans, dans ce studio-là, qu'on a imaginé pour la première fois des musiques fiction. Vous savez, la fameuse fiction radiophonique où en fait on prend un texte et on se dit, on va travailler le son, l'électronique, et on va faire que ce texte soit vivant et soit projeté pour des spectateurs. C'est une veillée sonore, voilà, c'est ça qu'on veut faire. Et là, ici, vous avez pour votre futur home studio, vous avez un système ambisonique, 24 haut-parleurs. Et donc, quand vous vous retrouvez au cœur de ce système-là, vous êtes mentalement projeté dans la forêt amazonienne ou dans une histoire de, par exemple, d'Annie Ernaux qu'on a réalisé ici, ou dans des univers sonores, littéraires. Et tout se passe par le son, ce qui vous parle pour la radio. On n'a pas besoin d'image, en fait. L'idée que l'hégémonie de l'image, c'est bon, on n'en a pas besoin. Et tout se donne, finalement, par le son, parfaitement bien. Et donc on a créé ces musiques fiction, on peut créer des siestes sonores, enfin tout ça sous le dôme ambisonique qui est comme un igloo de son.
Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu ici à l'IRCAM, Jean-Michel Jarre?
Oui, je suis venu à l'époque des 79 ou 80.
Jean-Michel Jarre, compositeur et musicien.
J'avais des copains ici qui travaillaient pour voir un petit peu comment ça se passait, et j'étais tout à fait impressionné par l'ambition du projet. L'IRCAM a beaucoup évolué parce que c'est parti au départ d'un rêve du président Pompidou, puisque l'IRCAM est lié au Centre Pompidou, comme on le sait, et qu'il a confié à Pierre Boulez, qui en a fait un instrument personnel, je dirais, pratiquement, au départ. C'est-à-dire qu'il l'a vraiment contrôlé, presque comme un jouet personnel. Et c'était plus compliqué, je dirais, de pouvoir entrer à l'IRCAM il y a 30-40 ans. Et en fait, au fil du temps, l'IRCAM s'est ouvert au monde extérieur, je dirais, en multipliant les contacts dans tous les domaines, sur le plan musical, sur le plan technologique. Et donc l'IRCAM, aujourd'hui, est devenu une sorte de laboratoire permanent et ouvert sur le monde, ce qui était probablement moins le cas à l'époque de Boulez, à cause de la personnalité très prégnante, je dirais, de Pierre Boulez. Moi, j'ai une énorme tendresse pour ce qu'a fait Renzo Piano et Rogers, parce qu'il y a à la fois cette vision des années 70, cette vision innocente et du futur. Une époque où, en fait, finalement, on projette finalement une sorte d'utopie poétique du futur. Et donc cet endroit, avec le fait d'avoir une sorte de pendant entre ciel et terre, entre le Centre Pompidou qui agresse, parce que ça a été controversé, l'espace, et puis l'IRCAM qui est plus enfoncé sous terre, me semble un très beau concept. Et puis c'était intéressant aussi que finalement la musique qui était très underground à l'époque où ça a été créé, finalement il y avait une relation presque physique, physiologique ou physique avec le lieu où ça se passait. Je pense que ce qui est intéressant à l'IRCAM et qui est très particulier, c'est qu'il y a une cohabitation complice, continue, entre des ingénieurs et des créateurs. C'est ça qui fait que l'IRCAM est dans une situation tout à fait particulière. C'est que justement, l'expérimentation est au service en même temps de la création, et vice-versa. Et donc, chacun est une éponge ici. Et va prendre, les ingénieurs vont prendre du côté des artistes, et les artistes du côté des ingénieurs. Donc, c'est ça qui fait de cet endroit une fourmilière jubilatoire.
Au commencement était l'artiste. Donc on a des artistes qui viennent avec des rêves. Ça, c'est quand même le point de départ.
Franck Madlener, directeur de l'IRCAM.
Au commencement est aussi le scientifique qui fait des recherches, qui avance, qui sait que demain sera différent d'aujourd'hui, qui imagine de nouveaux dispositifs. Et donc on relie les deux. Et donc au départ, c'est une volonté de faire rencontrer des communautés très hétérogènes. C'est un collectif hétérogène. Je dirais que l'IRCAM, c'est un collectif qui ne veut pas être une institution. Et donc, comme ils sont hétérogènes, ils font des choses bien ensemble. Donc, par exemple, un artiste débarque et dit « Je rêve d'un orchestre parlant ». Alors on se demande, c'est quoi un orchestre qui parle? Est-ce que des musiciens vont parler? Non, 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 je rêve que, sortant de l'orchestre, on ait l'impression qu'une voix va éclore et va naître. Et à partir de ce « je rêve que », se fabrique une œuvre, des thèses, un logiciel, un savoir-faire. Vous voyez, donc en fait, on part d'un rêve et après on fabrique. Et c'est ça notre point de départ. On a en ce moment une compositrice qui veut faire un opéra manga pour Aix-en-Provence. C'est quoi un opéra manga? Est-ce que l'univers du manga se transmet par le son? On a ici même une application qu'on propose aux professeurs. Vous savez, je parle beaucoup, ma voix se fatigue. Eh bien, mon application va me dire que dans 2 semaines, je serai à Faune. Quel type d'exercice puis-je faire pour que ma voix traverse cette épreuve et ne soit pas à Faune? C'est intéressant pour les gens de radio. On travaille également sur une chose qui va nous envahir, la voiture électrique. Vous savez bien qu'une voiture électrique est silencieuse, donc potentiellement dangereuse. Qu'est-ce qu'on lui donne comme signature sonore? Mais que ce ne soit pas une signature sonore envahissante. Donc, on crée le son des voitures du futur, du concept car du futur. Et puis après, il y a évidemment tous les rêves portés par des artistes visuels, par des compositeurs, par des chorégraphes, parce qu'aujourd'hui, le son devient le nouveau continent. C'est encore une terre inconnue, et c'est cette terre-là qu'on explore ici.
Et nous voilà enfin dans la pièce maîtresse de l'IRCAM, située à 16 mètres sous terre.
Donc là, vous voyez indiqué, toujours avec ce fameux jaune, l'espace de projection, qui est donc cette salle, mais il ne faut pas employer ce terme-là, un espace de projection, c'est comme un endroit où on projette. On projette quoi? Pas de l'image, mais du son. C'est une idée que l'électronique se projette. Et cette salle, elle a des caractéristiques uniques au monde, qui est sa capacité à se métamorphoser, à pouvoir changer son acoustique, à pouvoir se modifier en permanence. C'est l'espace de tous les possibles. Et c'est cet endroit-là qu'on a réinauguré en janvier dernier, et qui est offerte aux artistes et aux chercheurs et aux ingénieurs.
Cet endroit est un endroit qui a une acoustique modulable, qui a été imaginé par Pierre Boulez.
Jean-Michel Jarre, compositeur et musicien.
Avec en fait des murs qui se transforment avec des prismes triangulaires qu'on appelle des périactes, qui est un mot emprunté au théâtre grec de Sophocle, où en fait ces grands triangles, ces sortes de toblerones en fait à trois faces servaient pour faire des changements de décor à vue instantanée dans le théâtre grec. Et l'idée a été reprise ici par les ingénieurs de l'IRCAM pour en fait pouvoir instantanément passer d'une acoustique extrêmement réverbérée du type d'une église à l'acoustique d'un petit studio très mat. Et donc évidemment ça permet des choses totalement différentes c'est une salle qui est unique au monde. En plus les murs peuvent bouger, donc on peut passer d'une salle très grande à une salle plus petite. Donc c'est quelque chose qui sur le plan acoustique est tout à fait innovant, et en même temps qui est totalement en phase, cette réouverture de l'espace de projection, ce qu'on appelle ici, est totalement en phase avec notre époque, ce moment où on parle tellement de métavers, de monde immersif, d'émergence de la réalité virtuelle. Au fond, cette salle-là montre que, plus que jamais, le son est au centre des mondes immersifs.
Aline Morel est responsable technique de la production à l'IRCAM. Bonjour Aline.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? Pourquoi ce lieu assez intrigant est-il très particulier?
Parce que c'est un lieu où on fait de la sonorisation immersive pour du public. C'est un lieu qui est complètement modulaire, où on peut choisir où on met sa scène, où on met son public, où on met des éléments accrochés. Là, vous rentrez dans le lieu en plein montage d'un concert qui aura lieu jeudi prochain, pour lequel en fait on suspend des instruments de musique. Donc l'installation que vous êtes en train de voir, c'est l'installation de support d'un château. Un château de plaques tonnerres qui vont résonner avec les instruments qui seront sur scène. Alors ici, on a la chance d'avoir des studios où, dans lesquels les compositeurs créent la musique avec le personnel de l'IRCAM, qui du coup est complètement rompu à l'expérience et aussi expérimente beaucoup. Et là, particulièrement, on a aussi fait des tests dans l'espace de projection directement pour savoir quelle allait être la réponse des différents instruments qui allaient résonner les uns avec les autres.
Vous avez des panneaux et Aline va piloter ces panneaux, ce qu'on appelle des périactes, il y en a 171, qui modifient l'acoustique du lieu. Alors, vous entendez ? On a changé de lieu en restant sur place. Là, nous sommes carrément dans une cathédrale, alors qu'au départ, quand on est entré, on était dans une salle sèche. Vous voyez que les panneaux ont changé. Je pourrais faire une homélie. Ça vous donne des vocations de cardinal. Et donc, les panneaux ont changé et ils réfléchissent la voix. C'est l'inverse de la chambre anéchoïque. Ils sont très réfléchissants. Et là, on va rechanger avec ce bruit caractéristique des panneaux. Là, ça a changé à nouveau. Vous entendez que c'est plus sec. Et donc, vous pouvez imaginer que des artistes qui viennent avec un piano ou avec un quatuor à cordes ou avec leur voix ou avec l'électronique, ils ont la possibilité ici de choisir du sur-mesure. De se dire, je veux cette acoustique-là, on peut la mémoriser. Et s'ils font des enregistrements, on va retrouver cette acoustique. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'une fois que vous avez pris goût à cette salle, vous vous retrouvez un petit peu démunis ailleurs. Donc, on aide aussi à transférer ce qu'on crée ici ailleurs.
Dans d'autres salles de spectacle, vous voulez
dire ? Absolument, parce qu'ici, vous avez 339 haut-parleurs, vous avez ce système. Bon, on ne peut pas imaginer que partout, il y a ça. Donc, on fait nulle part ailleurs, on fait le maximum ici, et ensuite, on trouve des versions alternatives dans d'autres lieux. L'IRCAM est officiellement né, comme le Centre Pompidou, en 77. Mais en réalité, l'idée existait dans la tête de son fondateur, Pierre Boulez, depuis les années 60. Bon. Et donc ce lieu, qui est à côté du centre, mais qui est en lien avec le centre, a dû fermer en 2015 parce qu'on a trouvé de l'amiante derrière les fameux périacles, les fameux panneaux de l'espace de projection. Alors une fois que vous trouvez de l'amiante, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la façon de l'enlever, trouver les entreprises, trouver les moyens, etc., etc. Donc en 2015, nous sommes devenus nomades, ce qui fait qu'on a envahi, on a eu le bonheur de vivre chez les autres, avec les autres, ce qui nous apprend à être en réseau. Mais par exemple au 104, par exemple à la Philharmonie de Paris. Et puis je vous dis, on fait de plus en plus d'opéra et on travaille à Radio France, on travaille beaucoup avec les formations de Radio France. Voilà un exemple de ce qu'on a fait et qu'on va continuer à faire. 2015, déclaration de l'amiante. Eh bien, à partir de 2019, les travaux ont commencé, ils ont pris 16 mois. Et puis, il y a eu quelques petits retards. Et donc, en janvier, on a enfin réouvert au public et c'était une folie.
Les architectes du centre Pompidou et de ce qui a été sa dépendance ou son prolongement, si vous voulez, l'IRCAM donc, sont alors très jeunes et réalisent au début des années 70, en plein Paris, leur première réalisation d'envergure. Quand 20 ans plus tard, Renzo Piano revient pour agrandir l'IRCAM, il est déjà connu et reconnu. Et c'est lui qui a l'idée d'une tour à l'angle de la Piazza Stravinsky destinée au bureau. Il choisit comme matériau la brique, comme sur les bâtiments voisins, une école, l'école Jules Ferry, et des bains publics, qui seront quelques années plus tard récupérés par l'IRCAM, aménagés par les architectes Daniel et Patrick Rubin, pour accueillir des salles de conférence, des bureaux et une médiathèque. L'architecte et ingénieur Stéphane Millet s'est occupé de la rénovation et de la réhabilitation de l'espace de projection, tout en étant en contact avec Renzo Piano. À Paris, où l'on surveille le niveau de la Seine comme le lait sur le feu, construire en sous-sol relève de la gageure, nous rappelle-t-il. Stéphane Millet, pour vous, c'était un défi que de réhabiliter un lieu comme l'IRCAM ?
Oui, c'est un défi très technique. C'est pas simplement un défi de reprise architecturale, c'est un défi technique parce qu'on se retrouve confronté des dizaines d'années après, aux mêmes problématiques auxquelles Renzo Piano a été confronté en son temps. En l'espèce, il y en a deux très importantes qui conditionnent l'architecture en creux du lieu, de l'IRCAM, qu'on appelle l'enfouissement dans le langage des pompiers, des préventionnistes. Et en France, on a des limitations de profondeur pour tout ce qui est établissement recevant du public, qu'on appelle les ERP. Et là, on transgresse déjà, dans le principe même, on transgresse la profondeur licite. On parle de plus de 20 mètres. Or, la profondeur normale, c'est 6 mètres. Donc on est très très loin des autorisations habituelles.
Alors comment on fait ?
Alors on apporte ce qu'on appelle des compensations, des mesures compensatoires, c'est-à-dire qu'on négocie avec les pompiers et on regarde ensemble comment on peut se permettre, on va dire, ces états dérogatoires où le public va quand même être en sécurité, moyennant la multiplication des issues de secours, leur largeur, on pondère tout ça, des systèmes de détection sophistiqués, de désenfumage mécanique, etc. Bon, donc, en l'espèce, la problématique liée à l'autre problématique liée à l'enfouissement a trait à la proximité avec la Seine, et donc avec les nappes phréatiques, avec l'eau, tout simplement, qui induit une pression considérable sur les bâtiments. Si vous voulez, un bâtiment qui est cuvelé se comporte, on est en fait dans une surdensité où l'eau exerce une pression qu'on appelle les pressions négatives, qui a tendance à faire monter le bâtiment comme un bouchon. Et donc, on est obligé de lutter contre ça. On a recréé des pentes à l'intérieur des dessous de la salle, et on a ponctualisé la collecte des eaux, donc, qui inexorablement rentrent, quoi qu'on fasse, sous la pression, de telle façon qu'avec des pompages ponctuels, automatisés, on soit capable d'évacuer, de remonter et d'évacuer ces eaux.
Pour vous, c'est toujours moderne ou c'est intimement lié à une modernité des années 70, l'IRCAM, ce qu'a fait Renzo Piano?
La modernité est toujours passagère. C'est la grande loi de notre métier. Nous avons un métier où il faut beaucoup d'humilité, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs, mais tout particulièrement parce que nos bâtiments, nos constructions ont vocation à vieillir. Je dis toujours que au bout d'une quinzaine d'années, on rentre dans la mauvaise période où le caractère contemporain disparaît et qu'il faut ensuite accepter une traversée du désert d'une vingtaine d'années avant que le recul ne permette d'identifier la qualité et la représentativité d'une œuvre par rapport à son époque. Alors c'est le cas de cette première œuvre, puisque c'est sa première œuvre, de Renzo Piano, qui est un véritable jalon dans l'écriture architecturale, et bien entendu, elle va rester comme un témoin typique du début des années 70.
L'IRCAM, le laboratoire des rêves sonores.
Avec Franck Madlener, directeur de l'IRCAM, Ali Morel, responsable technique de la production à l'IRCAM, Stéphane Millet, architecte et ingénieur, et avec la participation de Jean-Michel Jarre, compositeur et musicien.
Coordination, Marceau Vassy et Maud Yaïch, prise de son, Ruben Carmazine, mixage, Xavier Lévesque, réalisation, Vincent Abouchard, Esprit des lieux, une émission de Toufik Hakem, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.